Bonsoir à tous, bonsoir à Flore Vasseur et merci d'être venu parmi nous pour nous présenter votre dernier livre, donc « Comment j'ai liquidé le siècle », paru aux éditions des Équateurs. Donc là, je pense que votre éditeur n'aurait pas pu choisir une meilleure période pour publier votre livre, et en plus pour vous faire venir ici, parce qu'entre la conférence annuelle du Bilderberg qui s'est tenue la semaine dernière à Sitges à côté de Barcelone, et le procès de Jérôme Kerviel, donc je pense que je n'ai pas forcément besoin de rappeler de qui il s'agit maintenant, qui s'est ouvert hier. Là, on est vraiment en plein cœur de l'actualité. Donc c'est assez peu commun que l'on soit plongé autant dans l'actualité grâce à un roman. Je vais en profiter pour rappeler que je ne suis pas économiste. On va s'intéresser aussi bien à la forme et au fond de votre livre. Avant cela, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes né en 1973 à Annecy. Vous avez fait l'IEP de Grenoble. Ensuite, vous êtes allé à HEC, vous avez intégré HEC. Parallèlement, vous étiez une championne de snowboard.
Alors ça, c'est pas vrai, j'étais pas du tout championne, mais je faisais de la compétition.
Modeste.
Non, c'était un raccourci de journaliste, c'est beaucoup plus court un champion que... qui faisait de la compétition.
D'accord, donc une snowboardeuse, on va dire, comme ça. Vous avez travaillé à Paris après votre sortie d'HEC, puis finalement, peut-être trouvant Paris un petit peu trop petit à votre goût, vous êtes partie à New York, et donc avez ouvert une société d'intelligence, de marketing... à l'âge de 24-25 ans, donc toute jeune à peine, une demi-douzaine d'employés, New York à vos pieds. Tout ça, vous le racontez dans votre premier roman, Une fille dans la ville, donc tout ça, ainsi que quelques voyages professionnels à Séoul, Mexico, Moscou, et le retour en France après le 11 septembre. Donc on précise bien que vous étiez à New York, pas loin des Twin Towers, au moment où elles se sont effondrées. Et donc, après, vous avez décidé de revenir en France. Donc, vous le racontiez très bien. Ce roman avait d'ailleurs eu un excellent accueil, un chaleureux accueil. On vous avait comparé à Tom Wolfe, Bret Easton Ellis, Douglas Copeland.
Ça aussi, c'est des raccourcis de journalistes. Ça fait
toujours
très pratique.
Oui, mais quand même, avec une telle paternité,
références.
Pour un premier roman... quand même, il faut reconnaître que c'est assez agréable. Et effectivement, on sent qu'il y a une écriture très personnelle, pleine d'énergie, que l'on retrouve dans votre deuxième roman, « Comment j'ai liquidé le siècle », qui nous occupe aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voulez le résumer le propos en quelques...
Oui, alors c'est toujours assez... Bon, bonjour à tous et merci d'être là. C'est toujours assez difficile de résumer le livre. Concrètement, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a entre 35 et 40 ans, qui est polytechnicien, qui vient de cette France qui se lève tôt. Son papa est plombier, sa maman est coiffeuse. Et il s'est réfugié dans l'enfance, il s'est réfugié dans les mathématiques pendant l'enfance, pendant une enfance qui était somme toute assez tristoune, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Il s'est tellement réfugié dans les mathématiques qu'il est devenu polytechnicien, brillant polytechnicien. Il a été recruté à la sortie de Polytechnique par une grande banque. C'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de polytechniciens. Donc là encore, pour l'instant, c'est un destin assez français. Très méritocratique, mais très français. Il rentre dans cette banque et il continue à titiller les fractales, c'est-à-dire à travailler puissamment les mathématiques. Beaucoup de polytechniciens vont aujourd'hui dans les banques parce que c'est le seul endroit où ils peuvent continuer à travailler à ce niveau les mathématiques. Sinon, il faut qu'ils soient chercheurs, mais ça paye beaucoup moins. Donc, c'est un raccourci, mais concrètement, il y a un débouché fantastique pour eux. Et il rentre dans cette banque. Il a, c'est vrai, plutôt, et c'était un choix de ma part, un profil à la Kerviel, c'est-à-dire un type de province qui n'est pas dans l'excès de la flamboyance des traders des années 80 qu'on a pu voir décrire dans des films comme Wall Street ou qu'on a pu voir même chez Bret Easton Ellis, un American Psycho. C'est juste un type normal, quoi, juste, mais très autiste, c'est-à-dire que les mathématiques lui servent à se protéger de tout, des relations affectives, des autres, de sa propre vie. Et finalement, il est brillant dans ses études, il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais sa vie personnelle est un désastre. Il a quitté sa femme aussi vite qu'il s'est marié avec elle, il a complètement raté l'éducation de sa fille, ça fait une dizaine d'années qu'il ne l'a pas vue, il vit avec une prostituée, etc. etc. Et ce type, qui est donc une star des marchés, parce que c'est l'un des cerveaux les plus brillants aujourd'hui, est un quant. Les quants, c'est des personnes qui écrivent des programmes algorithmiques qui sont lancés sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez, si vous suivez l'actualité économique. En 3 semaines, il y a eu 2 cracks boursiers récemment, en plus de tout ce qu'on entend sur l'euro, sur la spéculation, etc. Il y a eu 2 cracks boursiers qui ont été des cracks, on suppose, créés par des défaillances algorithmiques, des réactions algorithmiques, c'est-à-dire que tout à coup, une machine commence à parier à la baisse, par exemple, et toutes les machines se mettent à suivre cette machine. C'est mécanique. Il faut savoir qu'aujourd'hui 70% des transactions boursières quotidiennes sont passées par des machines sans aucun regard humain, donc ces réactions en chaîne algorithmiques sont en train d'arriver, et il se trouve que moi j'avais fait effectivement j'avais eu une petite intuition, et c'est vrai que bizarre. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc ce type travaille dans la banque, dans ce secteur très précis là de la banque, et il est appelé un jour par une femme à New York qui s'appelle Madame Crutson, et cette femme est à la tête d'un groupe qui existe, mais cette femme n'existe pas, elle est issue de ma tête, de mon imagination, et cette femme est à la tête d'un groupe qui s'appelle le Bilderberg. Alors effectivement, vous l'avez mentionné, le Bilderberg est un groupe qui existe depuis 1954. C'est un groupe qui a été monté par un Américain, David Rockefeller, de la famille, et le prince Bernard des Pays-Bas en 1954, dans le plus grand secret. C'est un groupe auquel on a prêté diverses intentions, mais ce qui est étonnant, c'est que en 55 ans, personne n'en a jamais parlé. C'est-à-dire aucun journaliste. Vous pouvez faire toutes les archives du monde, de Libération, du Washington Post, du New York Times, du Wall Street Journal, du Financial Times. Personne n'en a jamais parlé. Il y a une censure incroyable sur ce groupe. Pourquoi ? Parce que les magnats de la presse s'y retrouvent une fois par an. Enfin, les grands Murdoch, etc., s'y retrouvent une fois par an avec, assis autour de la même table, un certain nombre de leaders politiques, membres de gouvernement. Chez nous, Fabius, Jospin, Rocard, ils sont allés. Copé, de Vejean. Des hommes d'affaires, du personnel militaire, etc. Toutes ces personnes-là se rencontrent une fois par an dans le plus grand secret, 130 personnes, dans un lieu tenu secret, interdit au journalisme, personne n'a le droit d'en parler, aucun participant n'a jamais raconté ce qui s'y passait. Ça, c'est à peu près ce que moi j'ai réussi à recouper comme information. Après, tout ce que je raconte dans mon livre, qui est lié à Madame Crutson, est une pure invention. 2 secondes sur le Bilderberg. Les conspirationnistes, ils s'en donnent à cœur joie. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est juste de dire pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais. Et donc, dans mon livre, il y a cette femme qui est une espèce de femme au-dessus d'une autorité secrète transatlantique, et est une femme qui pourrait être, si vous voulez, le Howard Hughes au féminin, c'est-à-dire une femme de 80 ans, rongée par le diabète, richissime, cachée, qui a toujours été cachée et qui serait le secret le mieux gardé des puissants. Ça, c'est vraiment que mon imagination, je le précise.
Oui, parce qu'en plus, elle a 80 ans, donc elle aurait fondé le Bilderberg à l'âge de 24 ans. Lui attribuer la paternité.
C'est possible, j'ai pas fait ce recoupement-là. Enfin, elle a peut-être 85, on va dire. Elle l'a peut-être fait à 30 ans. Mais voilà, donc, et elle le convoque à New York en étant à la tête de ce Bilderberg, qui est une entité qui n'a eu de cesse que de renforcer les liens transatlantiques. Ça, c'est juste objectivement ce qu'on peut raconter. Moi, j'en fais une espèce de théorie, de comment dire, de grande maîtresse d'une idéologie néoconservateur qu'on a vue sous les airs Bush, donc d'une idéologie très partisane de l'empire américain, de la domination américaine, et qui finalement, cette femme, elle synthétise tous mes fantasmes de d'impérialisme américain qui pourrait éventuellement me faire peur. Et cette femme constate ce qu'on constate aujourd'hui, qui est la perte de la domination mondiale des États-Unis au profit de la Chine. Cette femme, dans mon livre, est incapable de le supporter, et cette femme, dans mon livre, demande à ce trader fou, pas fou d'ailleurs, ce trader normal, mais juste brillant, de l'introduire sur les, d'introduire un programme sur les marchés, un programme létal, et de provoquer une réaction en chaîne algorithmique qu'on voit qui peut se passer et de faire exploser le système, parce que arrêter les marchés et arrêter la consommation aujourd'hui est selon elle le seul moyen d'arrêter l'essor de la Chine. Et elle est complètement folle et elle dit tout sauf tolérer le second rang, tout sauf accepter la perte du leadership américain. Encore une fois, c'est du roman, c'est des intuitions, c'est du fantasme, mais qui aussi s'appuie sur mes peurs et sur des dérives qu'on a pu voir du pouvoir américain sous les années Bush. Donc c'est ces néo-conservateurs qui sont capables de mentir pour déclencher une guerre, qui sont, voilà, etc. Donc c'est un roman qui s'est basé sur un vrai travail d'enquête auprès des traders, parce que je voulais vraiment raconter le monde de la finance et pas raconter le monde de la finance avec les raccourcis littéraires qu'on pouvait avoir avec ces espèces de clics de frimeurs, etc. Je pense pas du tout que ça soit ça les traders aujourd'hui. Les traders aujourd'hui, c'est des mathématiciens qui vivent dans une bulle, qui ont un rapport autiste à la vie, aux autres, et qui sont juste complètement dans leur bulle. Et finalement, en parlant de mon livre et en le voyant pris en main, critiqué, débattu parfois, je me rends compte que c'est plus un livre sur l'autisme contemporain qu'un livre à charge sur la finance. Pour moi, la finance, c'est une espèce de figure extrême de la réalité dans laquelle on est tous. Un trader va vous dire, je suis là pour... d'ailleurs, c'est ce que Kerviel dit, je n'ai pas de point de vue, hein, mais je pense qu'il est représentatif de ça. Il dit, on est là pour gagner de l'argent, on est des gagneuses, on est là pour rapporter le plus d'argent à la banque, quelle que soit la façon dont on le fait. Et quelque part, dans cette non-prise en compte de l'impact des décisions de ces financiers sur tel pays, telle monnaie, telle population, regardez l'euro, regardez la façon dont les entreprises sont traitées tous les jours, les pays sont traités tous les jours, une agence de notation dégrade un pays et c'est des populations qui doivent se serrer la ceinture, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, voilà. Mais finalement, cette attitude des traders, moi je trouve que moi, consommatrice, je ne vais pas dire nous, mais moi, consommatrice, quand je suis en train d'optimiser toujours en permanence mon prix, mon temps, j'ai l'impression de ne pas nécessairement être très loin de cette attitude-là, de cette attitude d'intérêt individuel extrême, d'optimisation de tout, de j'en veux toujours pour mon argent, j'en veux toujours pour... Voilà. Et d'égoïsme contemporain. Donc, j'ai utilisé la finance parce que j'ai parlé de la finance parce que c'est un milieu qui me fait peur, parce que je me demande aujourd'hui où sont les vrais pouvoirs. Et j'ai aussi parlé de la finance pour parler de nous, voilà, de notre dépendance, mais aussi de certaines attitudes et d'une certaine culture de société qui, aujourd'hui, à mon avis, va profondément dans le mur. Voilà, excusez-moi, c'était très long.
Non, mais... Donc, vous aviez utilisé, donc votre premier roman était très clairement autobiographique. Oui. Vous auriez pu varier un petit peu, et là, je vous ai entendu plusieurs fois répéter, bien insister sur le fait que c'est un roman, c'est une fiction, voilà. En même temps, les sujets sont bien réels. Mmh. Vous parlez d'affaires. Alors, on a bien compris que l'affaire Tarviel, c'était bien l'affaire Kerviel, mmh, par exemple. Mais pourquoi choisir le genre du roman ? Pourquoi la fiction pour écrire ce livre et non pas un essai ? Parce qu'on sent que vous avez vraiment un message très clair.
Pour rien vous cacher, j'étais venue à l'écriture par un essai. Donc c'était il y a 5 ans et j'ai écrit un essai comme on crache son venin, vraiment. Et aucun éditeur n'en a voulu. Aucun. Vraiment, voilà, je crois avoir usé de mon meilleur. Voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais vraiment personne n'en a voulu. Et chaque éditeur me disait, enfin, ceux qui acceptaient de me recevoir me disaient. C'est brillantissime, mais vraiment, c'est pas pour nous. Enfin, vous voyez les façons dont les éditeurs vous disent non sans jamais vous dire non. Et ils me disaient tous, retravaillez et revenez dans 6 mois. Sauf que personne ne me disait comment travailler. Et puis un jour, j'ai rencontré un éditeur, mon éditeur, qui finalement, en 2 temps, 3 mouvements et en exactement 3 phrases, m'a dit mes 4 vérités. C'était chirurgical et d'ailleurs, c'était fou. Et il m'a dit, vous fermez ce livre. Enfin, vous fermez votre manuscrit, vous ne le touchez plus jamais. Et maintenant, vous me racontez la même chose, mais vous me racontez une histoire. Et je lui dis, mais j'ai pas du tout envie de raconter une histoire. Et il me dit, vous racontez une histoire en me racontant votre histoire. Et je lui dis, mais j'ai pas du tout envie de parler de moi. Et il me dit, demandez-vous pourquoi vous avez envie d'écrire. Au revoir. Et là, je me suis dit que j'avais rencontré vraiment quelqu'un d'important dans ma vie. Et donc j'ai commencé à réécrire et ce qu'il m'a dit c'est qu'en fait dans le détail ce qu'il m'a dit c'est on peut faire passer beaucoup plus de messages en racontant une scène et en racontant une anecdote, une scène, un dialogue qu'en disant je pense que c'est dogmatique, c'est didactique, c'est doux, mais qui je suis pour dire que je pense que finalement, alors que si je vous divertis et si je vous amuse et si, enfin dans l'espoir et si je vous fais voyager vous allez, je vous prends par la main vous allez peut-être m'écouter et mine de rien je vais vous parler de quelque chose qui va beaucoup plus vous toucher que si je vous dis je pense que, voilà. Et donc la figure du roman est peut-être beaucoup plus jouissive à l'écriture et beaucoup plus efficace probablement dans finalement le message qu'on veut passer. Les Américains appellent ça le storytelling et je crois que, enfin il m'a convaincue hein. Moi j'ai pas du tout fait d'études de lettres j'ai une connaissance assez je pense médiocre de la littérature, tout ce que je lis c'est plutôt des auteurs américains donc c'est, moi aussi je suis dans une certaine efficacité et finalement voilà c'est une rencontre qui m'a permis de comprendre que j'arriverais à mes fins en n'allant pas nécessairement tout droit.
D'accord, donc merci à la maison des Équateurs.
Ah oui, vraiment.
Et du coup, ça vous oblige à jongler en permanence avec les personnages réels et les personnages fictifs. Et donc, quand on lit de près votre livre, on a l'impression de faire un petit peu un jeu de pistes. Donc, c'est assez drôle. Donc, parfois, vous avez des noms qui sont conservés tels quels et d'autres pas. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms propres dans votre livre. Donc, en anglais, on appelle ça le name
dropping.
Ouais, name dropping ou name dropping. En français, alors apparemment, ça existe. Maintenant, c'est la nomagite.
La nomagite aiguë, désolé.
Voilà.
Ça se soigne ou pas?
Attention. Donc énormément de noms de marques, de noms de lieux, de modèles de voitures et de personnes, que ce soit dans le milieu de la culture, les hommes politiques, etc. Et tantôt ils sont conservés tels quels, tantôt ils sont modifiés. Alors comment avez-vous fait votre choix
À l'inspire, en fait. Quand c'est vraiment de l'information, alors à l'inspiration d'abord, quand c'est vraiment de l'information du style et que c'est de l'information publique. Du style, qui sont les participants 2009 du Bilderberg? C'est quelque chose que vous avez en 2 clics de souris sur Google. Bon, bah là, c'est de l'information, je le mets tel quel. Je diffame personne. Voilà. Et puis c'est de l'information. Bon. Après, je pense que vous pensez à Crédit Général, vous pensez à Tarviel, vous pensez
à. Matthew Fad.
Matthew Fad, ah oui, mais parce que vous savez qu'il existe vraiment, ce monsieur?
Ah oui, et votre lettre, c'est quand même très drôle. Vous avez reproduit exactement la lettre.
Vous êtes vraiment brillante, parce que vous êtes la première personne à le remarquer. Vraiment.
Bon.
Mademoiselle parle d'un fleur, parle d'une lettre qui est dans le livre, et qui est un mémo envoyé par un monsieur qui s'appelle Matthew Fad, et qui dans la vraie vie s'appelle Andrew Ladd, et qui est un patron de hedge funds, qui a fait 1000% de gains, je crois, sur la crise des subprimes, ça c'est la réalité, et qui, après avoir empoché ses gains, a décidé de tout arrêter. Il a rendu l'argent à ses investisseurs et il a envoyé un mail qui a fait date dans l'histoire de la finance, qui est un mail en forme d'énorme bras d'honneur au monde de la finance et qui est vraiment proprement jouissif et qui décrit comment la finance est en train d'usurper tout le monde, etc. Et je suis tombée sur ce mail et effectivement, je l'ai pris tel quel dans mon livre.
Sauf la fin.
Sauf la fin. Non. Le mail, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, même son... Parce qu'après, il parle... J'ai coupé la fin. Non, mais la plantation de marijuana, c'est vrai. C'est lui qui en parle.
Je sais.
Par contre, je l'ai changé parce qu'en fait, j'ai changé son nom tout simplement parce que dans le livre, je le fais mourir. Mm-hmm. Donc, c'est toujours un peu gênant de faire mourir quelqu'un qui existe. Donc, voilà. C'est pour ça.
Un autre aussi, alors là par contre, ça m'a donné un petit peu plus de fil à retordre, votre journaliste canadien, bon, je trouvais quand même, Tom Moly, alors, existe véritablement, donc c'est quelqu'un, l'une des rares personnes à avoir réussi à obtenir des informations apparemment sur le groupe Bilderberg, et, donc il y a quelqu'un qui existe, qui s'appelle Daniel Estulin, que vous avez rencontré peut-être.
Alors il se trouve que je l'ai croisé il y a 3 jours à Barcelone, parce que comme il y avait le Bilderberg à côté de Barcelone, et que moi je du Bilderberg et que j'ai jamais vu, je me suis dit je vais quand même aller, puisque j'arrête pas d'en parler, je vais quand même faire le minimum syndical, à savoir essayer d'aller voir. Donc j'y suis allée et j'ai rien vu, sauf ce que je décris dans le livre finalement, des hélicos, l'équivalent des CRS, beaucoup d'agents secrets, etc. Enfin, moi, encore une fois, je n'ai rien vu, si ce n'est que j'arrivais pas à rentrer et que la réunion avait lieu. Donc, première information, ça a lieu. Deuxième information, on n'arrive pas à rentrer. Troisième information, il y a un service de sécurité hors norme. Après, on en fait ce qu'on veut. Et Daniel Estulin était effectivement là. C'est un journaliste / enquêteur aux thèses... avec lequel on peut avoir du recul, mais c'est vrai que c'est l'une des seules personnes au monde à avoir enquêté sur ce groupe, et il est beaucoup dans la conspiration, où est le pouvoir, etc., etc. Et donc oui, je l'ai rencontré. Pourquoi j'ai changé son identité? Tout simplement parce que j'invente une scène avec lui.
Oui,
donc voilà, j'invente une scène où il se planque à Hong Kong, où il donne des informations, il en donne pas. Je l'avais jamais vu physiquement, donc je l'ai décrit un peu comme je l'imaginais, et il est pas comme ça. Donc voilà, c'est finalement, mon éditeur me disait, il y a un seul endroit où on est libre, c'est en littérature. Profitez-en. Dont acte.
D'accord. Bien fait. Je vais passer des noms propres aux noms communs, donc en faisant un petit détour par votre style quand même. En commençant par ce qui m'a frappé le plus et peut-être a frappé les lecteurs aussi, donc lecteurs français, c'est le recours au vocable anglais, qui est très très fréquent, dès le début, et ce, même quand on n'est pas à New York. Donc au début, ça commence à New York, et après, en fait, alors... Je ne sais pas si... j'allais jusqu'au bout de ma question. Et voilà, justement, je voulais savoir si c'était une façon... si c'était votre façon de vous exprimer à l'écrit comme à l'oral, parce que vous avez vécu aux États-Unis, tout ça. Ou donc si c'était quelque chose de personnel, ou si d'après vous, ça va plus loin et c'est culturel, et c'était une façon de mettre en évidence, peut-être avec un regard quelque peu satirique, donc l'acculturation rampante, sauf on l'obligeait français.
Alors il y a d'abord un travers personnel, mais sur lequel mon éditeur, alors là pour le coup c'est le coup de fouet à chaque fois que j'utilise un mot anglais, donc vous me faites peur si vous me dites qu'il en reste beaucoup. Mais deuxièmement, si on en a laissé passer, c'est parce qu'effectivement, il y a d'abord, on est dans le milieu de la finance, donc du milieu des affaires. Le milieu des affaires, il y a une culture particulière, il y a un langage particulier. Donc, c'est vrai que ça l'infiltre. Et puis, c'est vrai que ces traders, ils vivent nulle part. Ils sont en France, mais ils pourraient appartenir à n'importe quel pays. La question de la nationalité et même de la localisation... n'existe plus. Je veux dire, le monde est plat. C'est vraiment, voilà, on pense et on porte la même chose de Paris à New York, à Johannesburg, etc. Cette espèce de mythe d'un monde sans relief, sans aspérité, avec une seule langue, etc. Et c'est vrai que il y a un travers personnel, il y a une culture de société et il y a une critique, effectivement.
D'accord, oui, parce qu'on sent bien, et même dans le premier, c'était comme ça aussi. Hein.
Oui, mais alors le premier, c'en était même pire, parce que le premier, j'en faisais j'inventais des nouvelles expressions à partir de
plein de concepts.
Voilà, à partir de ces mots-là. Donc, enfin, il y avait une réflexion sur la langue, enfin, peut-être pas une réflexion, enfin, en tout cas, un travail sur la langue et des expressions créées d'une composition de mots français, soit d'argot français américain. Enfin, mais j'ai envie de dire, c'est presque très générationnel aujourd'hui. Hein, de cette, alors, on peut le fustiger, on peut le critiquer. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas.
D'accord. Très bien. Je vais en profiter juste pour lire un petit passage, parce que tant qu'on parle de la forme de votre écriture, c'est on sent qu'il y a une énergie dans votre écriture qui est impressionnante. Ça fuse dès le début. Ceci dit, j'ai l'impression que vous avez franchi un échelon, qui a un degré supplémentaire donc, par rapport à cette énergie. Donc, on va juste comparer les deux incipits, les débuts des deux romans. Donc, je peux lire où vous voulez.
Allez-y.
Alors, juste donc, les premières lignes. D'une fille dans la ville, donc fin des années 90. J'étais un espoir du snowboard français. Ce sport attirait tous les ratés du ski alpin. Je cognais des piquets, coupais la neige. Sur ma poitrine, il y avait plus d'écusson que sur la combinaison d'un coureur de Formule 1. À chaque départ, je m'élançais la rage au ventre. Au fil de la descente, je pensais. Arriver, c'est mourir un peu. À l'avant-dernière porte, je chutais. Il m'a fallu choisir un autre terrain de jeu. Je suis entrée à HEC sur un coup de bluff, une démonstration de tai chi devant le jury final. Tout le monde a rigolé. Petite parenthèse, est-ce que c'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai.
D'accord. Question que tout le monde a dû vous poser.
Enfin, déjà, c'était un peu plus compliqué qu'une démonstration de tai chi, mais j'ai vraiment fait une démonstration de tai chi.
Fallait oser quand même. Hein. Et donc, le début du dernier, roman, c'est extraordinaire. Alors, dès le début, on sent qu'il y a une agressivité, une violence. On est plongé en plein cœur de la... plein cœur de l'action, là, en plein cœur de Manhattan. Et c'est assez efficace. Hein. Les relents d'égout se mêlent au gasoil et à la graisse alimentaire. Le soleil de mai terrasse le bitume de Madison Avenue. McDo et Texaco, l'odeur mondiale. J'ai une heure à tuer, un abîme dans mon agenda calé au chronomètre. J'essaie de m'intéresser aux vitrines des boutiques de luxe. Je ne vois que ma silhouette anguleuse de bon petit de la méritocratie mondiale. Les lunettes fines ont remplacé les carreaux à flou premier prix. Les soins cliniques effacent l'acné. J'ai gagné des millions, pris de l'assurance. Rien à faire, j'ai toujours une tête de matheux posée sur un corps affûté au slow burn, la méthode de musculation qui sculpte le tout Manhattan. Sur le trottoir, des femmes en tailleur gris marchent au pas de course, rigides, convaincues, masculines. Lunchbox sous le bras, sac de sport sous l'autre, elles sont les guerrières du capitalisme. Et Gisèle Bündchen aussi, une affiche du top brésilien nue, de dos, envahit la devanture du dernier mégastore de Victoria's Secret. Un minuscule maillot pend à son ongle French manucuré. C'est le dernier bikini du numéro 1 de la lingerie bon marché. En 1999, quelques jours avant son introduction en bourse, la marque avait acheté des pages entières dans le Wall Street Journal. Gisèle Bündchen était couchée sur le ventre, deux ailes d'ange flottant par-delà ses fines épaules dorées. Le jour de l'IPO, elle était venue en personne à Wall Street. De sa longue main, elle avait actionné la cloche d'ouverture de la séance de cotation. Sur le floor, les traders hurlaient comme des loups. Battant tous les records, l'action est devenue une valeur chérie de la bourse. À peine allongée sur Photoshop, les jambes de l'une des filles les mieux payées de la planète sont les alliés du Dow Jones. Le sexe gouverne le monde, il rend les marchés fous. L'opulence occidentale tient un string. Donc voilà, on sent là-dedans.
Enfin, on met tout hein, sur un premier. Ça, c'est une petite technique de.
Mais
on met tout sur un premier chapitre. Alors après, on tient la distance ou pas, ou on tient pas la distance. Et je pense que c'est là où sont les bons ou les mauvais livres. Mais vraiment, enfin, les premiers chapitres sont en général et notamment l'entrée. L'entrée dans un livre, c'est comme quand quelqu'un rentre dans votre maison, quoi. Quelqu'un que vous aimez qui rentre dans votre maison, vous n'allez pas dire « Ah, salut !» Oui. Vous l'ouvrez, tchac, bonjour. Et l'entrée dans un livre, c'est démarrer une relation, en fait. Donc, effectivement, vous mettez tout ce que vous avez.
Et là, donc vous parlez de tenir la longueur, il n'y a aucun problème, c'est comme ça tout au long du livre. C'est ponctué de phrases que l'on a envie de noter tout le temps pour les garder, en faire des citations.
Merci.
Donc là, dans le premier, quand je dis que vous avez franchi une étape, dans le premier, vous régliez déjà pas mal de comptes. Le compte des New-Yorkaises, New York, le consultant, alors petite citation aussi, c'était très très bon. Consultant, typologie fourre-tout pour qualifier sa profession quand on ne sait pas quoi faire et où ce que l'on fait. Titre honorifique pour tromper la défaite. Et tout était comme ça. Le coup des expats français aussi, les descriptions, c'est un petit peu plus long.
Mais vous savez, on parle bien de ce qu'on connaît. Hein. Je suis consultante, expat, je l'ai été. Enfin voilà, je veux dire, j'ai réglé un compte avec moi-même aussi sur ce premier livre qui est sorti effectivement comme. À partir du moment où on m'avait montré la clé, et donc mon éditeur m'avait montré la clé, le premier livre, je l'ai écrit en 3 mois, mais ça faisait 10 ans que je l'avais en moi, donc c'était un peu facile. Et c'est vrai que cette espèce de dérision triste, parce que c'est triste aussi, hein, alors après, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'était, du coup, c'était facile d'avoir tous ces trucs-là parce que c'était profondément ce que je ressentais. Alors après, 10 ans plus tard, j'ai jamais réouvert mon premier livre. Ça fait peur.
Ça, vous vouliez pas lire L'Incipit.
Exactement. Celui-là, le deuxième est paradoxalement beaucoup plus apaisé.
Ah, vous trouvez ?
Ah ben, mon rapport, moi, avec ce deuxième livre, mais vraiment. Aucun problème.
Ah, c'est marrant. Alors, ça, c'est votre expérience d'écrivain, parce que vous avez pris de la distance. Déjà, c'est moins autobiographique, je suppose.
Oui, c'est 80% de la raison. Ouais.
Pierre, il a 37 ans.
C'est un homme.
Voilà. Mais non, sinon, on sent il y a un côté coup de gueule.
Ah oui,
vraiment,
on peut
qui
être,
est très, très fort. Hein.
On peut être en colère et en paix avec soi-même. Enfin, je veux dire, on peut être en colère contre ce qui se passe et néanmoins profondément d'accord avec cette colère.
Oui, c'est justement parce que vous arrivez à l'exprimer que ça va...
Oui, alors, effectivement, et ça, c'est ça ne peut arriver qu'à celui qui écrit, il y a un côté. Je pense que toute écriture de livre est une. Alors, la tarte à la crème, c'est de dire que c'est une thérapie. Peut-être. En tout cas, c'est un voyage qui fait beaucoup de bien. Pas au moment où on écrit, parce que 3 jours sur 4, c'est mauvais. 2 jours sur 3, il n'y a rien qui sort. Et 1 heure sur 3 jours, il y a une heure géniale où tout à coup, tchac, il y a la phrase qui fait que vous retenez et vous me dites, ça, c'est une super phrase. Ouais, mais c'était tellement dur à la trouver. Et voilà, donc c'est un livre, c'est difficile à écrire. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et on sait pourquoi après ça fait du bien, notamment parce qu'en général, c'est un cri, c'est une colère. Et que après, libre à moi ou pas de revisiter cette colère. Honnêtement, le premier livre, je n'y touche pas. Il me faudra quelques années. Le deuxième, c'est facile parce que c'est l'actu, parce que c'est nous, parce que c'est ensemble. Le premier livre, c'est moi, mon nombril, mes tourments, mes peines. Il y en a un peu ras-le-bol, quoi. Voilà, je suis passée à autre chose, tout va bien. Sur le deuxième, c'est vraiment beaucoup plus militant. Voilà. Et quelqu'un me disait d'ailleurs, t'as fait ton premier livre sur toi, très bien. Là, tu fais ton livre sur nous. Le deuxième, et qu'est-ce que tu vas faire en troisième? Peut-être un livre pour enfants, je sais pas, on va voir.
D'accord. Mais c'est vrai que dans le deuxième, dans ce coup de gueule, il y a un message, ou même plusieurs, qui sont assez frappants. Notamment donc tout sur la façon dont vous dénoncez les dangers de la financiarisation du monde, la financiarisation à outrance. Et aussi une certaine perception des relations internationales, cette forme de réel politique là, dont vous parlez, qui est assez inquiétante. Alors juste, je vous lançais sur une phrase que j'ai retenue, alors une parmi 50 000. Où est-ce que j'ai mis celle-là? C'est c'était... Je ne l'ai plus. Ah oui, voilà. Si tu veux comprendre les relations internationales, ce qui se trame vraiment, intéresse-toi à ce qui se passe dans les hedge funds. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette vision ?
Alors ça, c'est mon travail d'enquête avec des traders. Moi, je suis tombée de ma chaise quand on m'a raconté ça. Mais grosso modo, c'est un dialogue du livre parce qu'il y a dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Paolo et qui représente le trader, comme on peut l'imaginer, sans âme, qui spécule, qui a une vie entre trois copines à travers la planète, qui a pas de maison, qui habite dans un hôtel de luxe parce qu'il a même pas le temps de s'occuper de lui, enfin, etc. C'est pas... Moi, je pensais faire une caricature, petit bémol, petit aparté, je pensais faire une caricature sur le monde de la finance et sur les traders, et j'ai beaucoup de retours de lecture de traders. Pas beaucoup de retours de lecture en général, mais beaucoup de retours de lecture de traders qui me disent, et qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et qui me disent vous êtes en dessous de la réalité sur le mode de vie et sur, je pense, sur ce qu'ils font vraiment. Et sur les hedge funds, donc moi je pense que c'est une petite partie des hedge funds, mais je pense que c'est néanmoins vrai. Les hedge funds, pardon, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, c'est des fonds d'investissement. C'est des fonds d'investissement privés, donc concrètement ça veut dire que c'est une petite équipe de gens qui lèvent de l'argent auprès d'investisseurs et qui après placent cet argent en disant aux investisseurs qui ont placé de l'argent chez eux qu'ils vont leur donner des avoir une rentabilité de tant et tant sur les investissements, et les investisseurs ne regardent en général pas comment est utilisé cet argent et d'où vient ces profits. D'où viennent ces profits ? Et dans mon roman, mon Paolo, ce personnage travaille pour un fonds sino-russe basé à Genève et qui spécule sur les matières premières. Ça, jusque-là, tout va bien, ça arrive, il y en a plein, etc. Et il se trouve que j'utilise ce personnage pour décrire des situations qui m'ont été racontées comme vraies, de spéculation sur le cacao, voire d'organisation d'une insurrection ou d'une rébellion dans la capitale pour pouvoir spéculer sur le cacao, pour pouvoir engranger des fonds particuliers, des fonds, des investissements meilleurs, une meilleure rentabilité. Tout ça, c'est deux petits passages dans mon livre. Mais c'est aussi une question, c'est surtout moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est encore une fois, où est le pouvoir ? Est-ce que le pouvoir est aux États-Unis ? Où est le leadership, pardon pour ce mot, où est la domination ? Qui gouverne ? Est-ce qu'elle est chez Obama ? Est-ce qu'elle est sur les salles des marchés ? Est-ce qu'elle est chez les Chinois ? Est-ce qu'elle est dans les opinions publiques ? Est-ce qu'elle est auprès de Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'elle est dans les syndicats ? Est-ce qu'elle est dans le fondamentalisme religieux ? Où est-ce qu'il est ? Et c'est vraiment... où est-ce qu'il est dans les hedge funds, voilà, qui peuvent manipuler les conflits concrètement pour gagner 3 points de rentabilité et gagner de l'argent. C'était une réalité. Je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est très inquiétant. Je pense que ça n'arrive pas très souvent, mais je pense que ça arrive.
Oui, la perte de pouvoir des politiques au profit de...
Ah, ça, par contre, ça, c'est une tendance lourde. Enfin, moi, c'est ma façon de lire l'actualité aujourd'hui. Sur ces quelques derniers mois, c'est en train d'éclater à la figure de tous. C'est-à-dire cette façon dont, voyez, la façon dont ce qui arrive à l'Europe aujourd'hui, la façon dont Angela Merkel, Sarkozy et tous les ministres des finances de l'Europe sont à la ramasse de ce que vont décider les marchés sur l'euro. Enfin, et Goldman Sachs, ou sont à la ramasse des décisions de Goldman Sachs et autres sur tel investissement, tel pays, etc. Donc oui, ça c'est pour le coup une tendance lourde.
C'est certain, oui. Donc pour continuer un petit peu aussi sur les gens à qui les gens ou les groupes dont vous réglez les comptes, les portraits que vous faites de la France moyenne. Alors, porte un peu à s'interroger. Est-ce que c'est vu juste par les yeux de cet homme qui a l'air du coup extrêmement méprisant dans son regard, ou est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez les choses? Parce que alors, je pense au personnage de Simon en particulier, en description.
Alors, le regard qu'il porte sur la France moyenne, c'est sur sa propre famille. Donc, il n'y a pas de jugement sur autre chose que sur sa famille et sur sa maman. Je vous l'ai dit au démarrage, c'est un autiste, il a des problèmes, ce type-là. Il n'est pas normal. Il est notamment en rupture totale vis-à-vis de ses émotions et de son affection. Pas verbalisé, et c'est plutôt un type médiocre, en fait, plus qu'autre chose. Donc effectivement, quand il retourne voir sa maman après le 11 septembre, il y va, il a l'impression de faire sa BA parce que sa maman s'est beaucoup inquiétée, parce qu'il était, c'est le seul moment un peu autobiographique, il était à New York le 11 septembre et sa maman s'est fait beaucoup de soucis. Et quand il va retourner voir sa maman, il passe une semaine, et sa maman est coiffeuse, et c'est un peu le choc des cultures, si vous voulez, parce que lui, il est trader, il gagne des millions, il vit dans un monde de fric, d'argent, de marque, complètement vide. Et sa maman, elle est coiffeuse à Clermont-Ferrand. Enfin, on ne peut pas faire plus caricatural que ça. C'était voulu. Et du coup, il a un regard... il est tellement en but avec tout ce qui peut être affectif qu'il a un regard distancié, mécanique, chimique à ça. Et il revoit son seul... ami d'enfance qui lui travaille dans une PME locale, et c'est vrai que là il exprime tout le mépris que la finance peut avoir à l'égard des gens qui travaillent vraiment, non que le monde de la finance ne travaille pas, mais cette déconnexion incroyable du monde de la finance à l'égard de la réalité, c'est vrai, est exprimée dans cette relation. On a tous des amis d'enfance, on se demande tous un jour ce qu'ils sont devenus, et je pense que quand se joue une scène de retrouvailles, il se joue un moment de comparaison, et il se joue beaucoup de choses de cette histoire de parcours et de choix de vie.
Et là, on passe notre temps à entendre, depuis quand on grandit, que l'habit ne fait pas le moine. Alors là, c'est vraiment l'inverse.
Il
détaille de la tête aux pieds, fait attention aux marques, tout ça.
Je pense qu'il n'y a rien de plus faux. Enfin, l'habit ne fait pas le moine. Il n'y a rien de plus faux dans notre culture actuelle, malheureusement. Enfin, regardez la façon dont nous-mêmes, ou en tout cas, la présence, la prégnance des marques dans tout, quoi. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Alors, il y a des critiques qui me disent, mais tu fais l'apologie des marques. C'est juste tout le contraire. Mmh. C'est pour montrer la façon dont elles envahissent notre quotidien et nous aliènent. En fait, c'est un livre sur l'autisme, c'est un livre sur l'aliénation.
On parle des marques, petit lien vers un personnage de... Hello Kitty, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Au début, quand vous avez présenté le livre, vous n'avez pas parlé de cette arme de destruction massive qui est la clé USB que va tendre donc Madame Crutzen à Pierre au début du roman. Une clé USB sur laquelle il y a le personnage donc de Hello Kitty. Alors. Pourquoi choisir
Pourquoi Hello Kitty? Oui. Parce que tout simplement, donc j'ai commencé à écrire il y a 2 ans, Hello Kitty, et le personnage Hello Kitty, qui est un vieux personnage, hein, moi-même dans mon enfance, il y avait du Hello Kitty. Donc probablement qu'elle m'avait marqué. Le personnage de Hello Kitty ressortait un petit peu partout. Donc je trouvais ça amusant. Première chose, et surtout deuxième chose, et ça c'est plus important, Madame Crutzen, mon personnage de femme folle, 80 ans, etc., elle vit entourée de chats. Et elle a 13 chats, comme autant d'ex-mari, et donc c'est elle qui lui donne la clé USB, et donc j'ai trouvé ça rigolo qu'elle lui tende une clé USB en forme d'Hello Kitty. Plusieurs choses. On peut avoir l'air naïf et être complètement létal. C'est pour ça que j'ai voulu mettre Hello Kitty derrière un personnage enfantin, figuratif, fait pour les enfants. Il peut y avoir une bombe. Et puis le lien avec cette femme qui vit entourée de chats. Enfin voilà. Donc la thématique du chat est un petit peu partout dans le
livre. Ah, c'est marrant parce que moi, ce à quoi j'ai pensé en premier, c'était l'origine de la marque Hello Kitty. Donc, c'est japonais.
C'est japonais, oui.
Donc, je voyais plus ça par rapport à la menace, donc non pas chinoise, mais asiatique sur l'Empire.
Enfin, les Chinois et les Japonais, ils ne sont pas très copains.
Non,
et le Japon, ils sont encore en plus mauvais état que nous. Donc, moi, ce n'était pas le Japon. Je me suis rendu compte après qu'il était japonais, Hello Kitty. Non, c'était vraiment le visage. Enfin, voilà, j'en fais un personnage. Chat, donc, le visage, le chat, et puis cette espèce de choc, esthétique, mais visuel, sur une bombe qui pourrait être planquée derrière un personnage qui ressemblerait à ça. Parce que, oui, pour revenir là-dessus, parce que ce n'est pas nécessairement très facile à comprendre, aujourd'hui, donc, l'un des scénarios noirs du FBI, c'est le fait que quelqu'un puisse un jour arrêter les marchés de fonctionner. C'est possible via deux moyens, modalités. L'une, c'est un virus informatique sur les marchés financiers. Il y a tous les jours des choses qui sont arrêtées, etc. Bug algorithmique, comme il y a eu il y a quelques temps, ou réaction algorithmique. Et l'autre modalité, c'est si un jour quelqu'un arrive à couper physiquement les canaux dans lesquels transmettent les données. Vous voyez, là, Internet, c'est des câbles. Ils sont enterrés sous terre. Hein, l'enflacement est plus ou moins secret. Si un jour quelqu'un arrête la transmission de données, ça peut faire arrêter les bourses. Et si on arrête les bourses, voilà, moi, c'est mon fantasme, c'est mon acte insurrectionnel imaginé. Mais voilà, tout à coup, imaginez, vous, plus de coordonnées bancaires, votre carte de crédit ne fonctionne plus, vos virements automatiques, tout s'efface.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, ça, c'est une pure un fantasme, encore une fois. Et en même temps, au mois de janvier, il y a 20 millions de cartes bancaires allemandes qui sont arrêtées de fonctionner comme ça. Voilà. Donc, moi, je voulais décrire deux choses. Un, notre extrême dépendance vis-à-vis de la finance, et deux, notre extrême et l'extrême dépendance de la finance, auquel nous sommes nous-mêmes dépendants, vis-à-vis des outils. Il y a une phrase pour démarrer ce livre, qui est une citation, vous savez, à la fin, on se fait toujours un peu plaisir. « Nous sommes les outils de nos outils ». C'est Thoreau, c'est un essayiste américain. Voilà, c'est ça que j'avais envie de décrire. C'est qu'à force d'avoir cherché la sophistication et l'efficacité dans tout, on a perdu le contrôle. C'est Frankenstein, quoi.
Et donc Thoreau, il était quand même connu pour avoir vécu dans une cabane dans les bois. Donc est-ce que c'est quelque part ce que vous préconisez, le retour à la nature
Je ne sais pas si... Il faut lire la fin du livre.
Voilà, belle pirouette.
Non mais voilà, oui.
D'accord. Je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Très bien.